Il est 20h, vous écoutez Feu d'artifice, l'émission qui met un doigt dans la culture, un samedi par mois sur Radio Campus Paris.
Feu d'artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture. Des artistes contemporains, des artistes moins contemporains, et parfois des contemporains. Un samedi par mois à 20h, sur Radio Campus Paris.
On a beau être une émission d'actualité culturelle, ce soir j'avais envie de vous emmener dans le passé, l'espace d'un instant. Je vous propose une recommandation tout en poésie, puisqu'il s'agit du magnifique film At Eternity's Gate de Julien Schnabel. Le film, présenté à la Mostra de Venise en 2018, retrace les derniers moments de la vie du peintre Vincent Van Gogh. De son installation à Arles jusqu'à sa fin tourmentée à Auvers-sur-Oise, non loin de Paris, le film retrace notamment sa rencontre avec Paul Gauguin ou encore son rapport à la peinture qui le maintient en vie alors que tout le monde, ou presque, lui tourne le dos. L'artiste est interprété par Willem Dafoe, qui déploie une fois de plus un talent d'interprétation hors norme. Tourné à de nombreux moments en caméra subjective, le film nous transpose dans l'esprit du peintre, un esprit où se mêlent beauté et angoisse. Tout au long du film, les réflexions sur la vie et surtout sur l'après fascinent le spectateur. Et rien que pour la beauté et la présence de l'œuvre du peintre en permanence à l'écran, je vous recommande vivement de le visionner. Et puis ça vous prendra moins de temps que d'aller vous faire chier à faire la queue au musée d'Orsay. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans Feu d'Artifice, et bonsoir Simon.
Et bonsoir Agathe, quel plaisir de te retrouver, ainsi qu'une équipe, je l'espère, toujours aussi endiablée. Tout d'abord, first but not least, last but not first, but least. Bonsoir Camille, bonsoir.
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 Waouh, c'était long. Réalisation
de cette émission et on te remercie. Eux, on ne sait pas trop si on les remerciera, mais au fond de nous, on se réjouira quand même de leur présence. Bonsoir Jules et André.
Salut Simon.
Et bonsoir. Mais bonsoir, le sang tout à fait. De quoi vous nous parlez ce soir?
De rap musique.
De rap musique.
Allez.
On a hâte, et enfin, elle a beau cacher son attirance pour les cordes vocales d'Idriss Elba à travers des personnages. On a hâte de la retrouver en fin d'émission. Bonsoir, Lalia.
Bonsoir.
De quoi vas-tu nous parler, mais pas partout.
Mais pas vraiment, mais un peu.
Mais un petit peu, mais pas vraiment, mais quand même.
Du comeback de ABBA.
On a hâte.
Et ce soir, nous recevons Michel Leclerc, réalisateur et scénariste du Nom des gens, Télégaucho ou encore de La lutte des classes. Il est venu nous parler, non pas d'une fiction, mais de son premier documentaire, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, en salle depuis mercredi.
C'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'un couple de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés.
Ces méthodes d'enseignement portent surtout sur l'observation.
C'est l'histoire de la Maison d'Enfants de Sèvres, une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres. C'est l'histoire d'un couple de résistants qu'on a accusé d'être des collabos. C'est l'histoire de gens intègres, dans une époque qui ne l'était pas.
Ils ont des cas sociaux, ils ont des orphelins de guerre, et ils vont y joindre des enfants juifs qui vont planquer.
Maréchal, nous voilà.
Maréchal. Vite, on leur avait pas appris.
Et puis c'est un peu mon histoire, puisque ma mère a passé dans cette maison toute son enfance, jusqu'à son mariage.
On vous a vu sur les photos.
Ah oh, ben moi je me suis pas vue du tout, disons.
Juliette, ma mère, et ses copines de Sèvres. C'est l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin, les seuls vrais héros de ma mythologie personnelle.
Donner ce qui nous reste et ce qui nous reste à tous de la Maison de Sèvres.
À l'instant, la bande-annonce de Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Bonsoir Michel Leclerc.
Bonsoir.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui, comme on a pu l'entendre dans cette bande-annonce, raconte l'histoire d'Yvonne et de Roger Agnoer, un couple qui a recueilli dans sa maison des centaines d'enfants pendant la guerre, dont des enfants juifs qu'ils ont recueillis au nez et à la barbe du régime de Vichy. Alors, ce film, ce n'est pas seulement un documentaire pour vous, Michel Leclerc, est-ce que c'est aussi une partie de votre histoire?
C'est surtout une partie de l'histoire de ma maman, puisque ma mère, effectivement, était parmi ces enfants qui ont été recueillis par Yvonne et Roger Agnoer à la maison de Sèvres et qui a passé toute son enfance, c'est-à-dire 15 ans de sa vie. Et c'est même au-delà de ces 15 ans qu'a été lié pour la vie à ce couple. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, par l'intermédiaire de ma mère, est très important pour moi, effectivement.
Vous les avez donc connus vous-même pendant votre jeunesse. Est-ce que vous y voyez à l'époque, est-ce que vous y voyez déjà un peu des personnages autant que des personnes? Parce que les archives que vous montrez dans le film montrent qu'ils ont comme une très forte présence à l'écran. Et oui. Si j'ai bien compris, c'était aussi une histoire qui vous trottait dans la tête quand même depuis avant, bien avant l'époque où vous avez commencé à travailler sur le film, donc il y a 2-3 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport que vous aviez avec eux?
C'est une bonne question, parce qu'effectivement, je pense que très tôt, j'ai eu conscience que c'était des personnages, que c'était des personnes, mais que c'était des personnages, parce qu'ils étaient très hauts en couleur. Moi, ils sont morts, j'avais une vingtaine d'années, donc je les ai quand même connus un certain nombre d'années, et ils étaient très drôles, par exemple. Par exemple, Pingouin, à la fin de sa vie, il était très sourd, donc il parlait très très fort. Il était tout le temps très énervé contre... Il lisait le Monde tous les jours, et tous les jours, il y avait un objet d'énervement pour lui. Enfin, c'était des personnages, oui. Donc, pour répondre à votre question, très tôt, je pense, j'ai eu conscience que c'était des gens totalement hors normes. Quand j'ai compris l'histoire de ma mère et à travers l'histoire de ma mère, l'histoire d'Yvonne et Roger, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient fait, et quand j'ai très tôt perçu qu'il fallait que je raconte cette histoire et qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Et je pense que c'est même probablement à l'origine de ma vocation de conteur d'histoire, je crois.
Bien sûr, mais oui. En plus, c'est techniquement pas la première fois que vous parlez de Pingouin et Goéland au cinéma. Vous les mentionnez déjà dans Le Nom des gens, de même que l'histoire de votre mère, qui est une partie intégrante de l'histoire de ce film Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Est-ce que vous aviez justement le sentiment, vous parliez de votre vocation, mais de ne pas avoir fini de raconter cette histoire?
Ah ben c'est sûr. C'est-à-dire que quand j'ai fait le Nom des gens, c'était ça restait quand même assez allusif. Et puis c'était dans le cadre de la fiction. Et à ce moment-là, en fait, je voulais pas en dire plus. Je voulais rester dans la fiction et parce que entre autres choses, ma mère était à ce moment-là encore de ce monde. Et donc, il fallait quand même que je reste relativement discret, on va dire peut-être. Et donc je savais que l'histoire vraie, il fallait que je la raconte un jour ou l'autre, parce qu'elle est encore plus extraordinaire que ce que j'ai pu mettre dans la fiction. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je la raconte, mais j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment, sous quelle forme. Justement, je voulais pas faire une fiction, parce que justement, les vraies personnes étaient suffisamment des personnages hauts en couleur, y compris les copines de ma mère, qui sont quand même aussi toutes des sacrés personnages.
Dont on va parler, effectivement.
C'est vraiment absurde d'en faire de la fiction. Il fallait que je les filme vraiment. Et donc voilà, je suis arrivé à l'idée du documentaire.
Et justement, du coup, c'est le premier documentaire que vous réalisez seul, puisque vous aviez déjà eu un travail, à ma connaissance, dans le cinéma documentaire. Comment vous avez abordé ce genre cinématographique, le documentaire, au regard du fait que, justement, vous venez de la fiction? En termes de travail, vous avez senti plus de liberté, de forme, plus des contraintes différentes? Comment vous avez géré cette transition?
Alors,
si je puis dire.
J'étais assez, on va dire, intimidé par le genre. Puisque je me sens plus à l'aise effectivement dans l'écriture de la fiction, etc. Mais à partir du moment où j'ai accepté l'idée, par exemple, que je devais parler à la première personne, ce qui n'a pas été évident pour en arriver là, que je ne devais pas ellipser mon lien direct avec l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoer, à partir de là, en fait, ça m'a libéré de quelque chose et je me suis dit que je pouvais m'autoriser justement à être libre dans la narration. Et le grand avantage d'un documentaire comme celui-là, c'est que par rapport à la fiction, c'est vraiment un petit budget et quand même, on est beaucoup plus libre, puisque c'était pour le cinéma et pas pour la télévision, dans la forme, quoi. C'est-à-dire que personne, ma productrice, m'a plutôt encouragé à faire vraiment le film le plus personnel possible. Parce que on n'a pas plusieurs millions d'euros sur les épaules, on n'a pas à rendre de compte, on n'a pas de star, Et donc, ça m'a beaucoup aidé à être vraiment libre de faire exactement le film que je voulais. Et si, même s'il est vu par 10 personnes, c'était pas si grave que ça. Et donc, voilà, moi, j'ai bien aimé. Du coup, c'est un travail essentiellement de montage, oui. Puisque c'est essentiellement constitué d'archives, le film. Mais dans un esprit de liberté qui me semblait très cohérent, évidemment, avec le sujet de mon film.
Et justement, en parlant d'archives, donc le documentaire est extrêmement fourni, est vraiment riche de documents et de vidéos. Je voulais vous poser la question justement de ce travail de recherche. Comment ça s'est fait, tout en sachant que vous aviez un fond d'image qui vous était propre?
Oui, alors ça s'est fait en plusieurs parties. Déjà, puisque je m'étais intéressé à ce sujet depuis très longtemps, je m'étais déjà renseigné de savoir ce qui existait à l'INA, c'est-à-dire, puisque c'est un endroit, la Maison de Sèvres, qui, dès son ouverture en 1941, a été assez médiatisé. Alors, on n'appelait pas ça à l'époque comme ça, mais je veux dire par là, c'est que dès son ouverture, il y avait eu des journalistes, par exemple, qui ont fait des reportages photos. Il y a eu un film en 1946. Donc ça, c'est des éléments que je connaissais déjà. Donc je savais qu'il y avait quand même une première matière. Et puis ensuite, en travaillant sur le documentaire, notamment avec la documentaliste qui est aussi une ancienne de la Maison de Sèvres, on a trouvé énormément d'archives effectivement privées, puisque la plupart de ces enfants, quand ils sont devenus adultes, revenaient régulièrement à Sèvres. Ils ont photographié énormément cet endroit. Ils ont pris des films de pingouins et goélands eux-mêmes. Donc voilà, tout au fil des époques, depuis les années 40 jusqu'aux années 80, il y a eu des archives. C'était très très riche et très fourni, que ce soit des films Super 8, des films VHS, des photos en couleur, en noir et blanc. Et tout ça, ça a donné une matière vraiment très riche. Et qu'au fur et à mesure du montage, en fait, le film s'est enrichi aussi des archives que beaucoup d'anciens nous amenaient ou nous donnaient.
Et justement, c'était un travail de montage, comme vous dites, et un des aspects qui ressort de ce montage, de ce film, c'est sa capacité à être très doux et bienveillant, alors qu'il traite de sujets difficiles, de sujets douloureux, qui sont celui des enfants de la guerre, de l'occupation. Est-ce que c'est aussi votre bagage de la comédie qui vous a aidé à parler de ces sujets avec légèreté? Je ne sais pas si c'est le terme légèreté que vous préconisez parler.
Le terme légèreté me convient très bien. J'ai toujours considéré d'une certaine manière que mon boulot consistait, que ce soit dans la fiction ou pas dans la fiction, d'essayer d'alléger des sujets éventuellement graves.
Faire du drôle avec du triste, comme disait Guy Bedos.
Ouais, exactement. Et je pense que, je crois que c'est Gérard Horry qui disait que toutes les comédies, si on prend le synopsis au pied de la lettre, ça peut être très dramatique, hein. Donc moi je crois dans ça, je crois vraiment que mon boulot c'est de mettre des bulles de, pas de champagne, mais enfin des bulles d'air dans des situations très lourdes et donc pour moi c'était très important parce que la Maison de Sèvres était plutôt un endroit joyeux, puisque c'était un endroit où il y avait les enfants et que les enfants vivaient dans une certaine liberté, dans une certaine harmonie, dans une suractivité. Et tout ça, ça aurait été un contresens pour moi de faire un film triste.
Bien sûr.
Et un contresens total. Donc, pour moi, c'était vraiment la toute première obligation en faisant ce documentaire, c'est que ça soit un film qui soit tourné vers la vie, vers un certain optimisme, qui soit tourné vers l'avenir, c'est-à-dire tout ce que ces enfants ont pu partager dans cet endroit et qui, d'une certaine manière, même pas d'une certaine manière, qui, dans toutes les manières possibles, les a sauvés.
Et vous le dites d'ailleurs à un moment dans le film, le rire de ses enfants, c'était le sujet du film.
Oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment, si je voulais faire un film à l'image de ce couple, qui, même à la fin de leur vie, puisque était très, très joyeux et très... Donc, il fallait vraiment que je trouve le ton, que je trouve, et dans tous les compartiments du film, la musique, et on voit bien, même quand je filme ces vieilles dames indignes qui ont toutes plus de 85 ans, on voit bien qu'elles ne broient pas du noir. on voit bien qu'elles sont elles sont vivaces et vivantes et drôles, quoi.
Et on va, voilà, on va y revenir justement sur sur la vivacité de ces anciens enfants de la maison de Sèvres.
La suite de Feu d'artifice, c'est juste après une pause musicale. À suivre, la deuxième partie de l'interview du réalisateur Michel Leclerc que vous venez d'entendre, une chronique d'André et Jules, un quiz et une chronique de Lalia.
Je ne sais où aller, je ne sais pas quoi faire. Je marche dans les rues, parmi cette foule que je ne vois pas. Peut-être pense-t-il que je suis fou. Je suis épuisé, je suis épuisé. Thank you.
Amour, je te cherche de Jarvis Cocker, une reprise de Nino Ferrer que vous pouvez retrouver sur le disque Chansons d'ennui Tip Top, un disque qui a accompagné la sortie il y a 2 semaines de The French Dispatch de Wes Anderson. Il est 20h22.
Vous écoutez Feu d'Artifice sur Radio Campus Paris.
Michel Leclerc est au micro de Feu d'Artifice pour nous parler de son dernier film, Pingouins et Goélands et leurs 500 petits.
Et la maison de Sèvres, c'était un lieu d'accueil et de refuge pour ses enfants, mais ça a été aussi le lieu d'application des principes de l'éducation nouvelle, un courant pédagogique qui défend le principe d'une participation active des individus à leur formation. C'était important pour vous de montrer à travers votre récit cette forme d'éducation alternative ?
Ah ben bien sûr, parce que c'était au cœur du projet pédagogique de Goéland. Elle a été vraiment très très marquée par... ces mouvements qui sont nés après la Première Guerre mondiale, que ce soit Montessori, Freinet, De Croly. Et si elle a autant voulu ouvrir cette maison de Sèvres, c'est d'abord et avant tout justement pour pratiquer cette pédagogie qui était quand même assez révolutionnaire à l'époque et d'essayer de voir comment il était possible en recueillant des enfants vraiment très malheureux, quoi, enfin plutôt dévastés parce qu'il leur était arrivé, de voir si cette pédagogie pouvait leur permettre de sortir un peu du désespoir et de l'ornière. Et le fait est, et c'est vraiment aussi l'objet de mon documentaire, que cette pédagogie a fait relativement des merveilles dans cet endroit.
Et justement...
c'est-à-dire... Oui.
Enfin, excusez-moi, je vous coupe. Justement, je voulais revenir sur ce que vous disiez. Le projet Pingouins et Goélands dans la maison de Sèvres, c'était de faire de ces enfants, à leur sortie, des citoyens fonctionnels. C'était important pour vous, justement, de cette merveille qu'ils ont réussi à faire et d'en faire des citoyens tout à fait adaptés. Et aussi, l'importance pour vous de ne pas montrer ces enfants uniquement à travers le prisme de leur infortune qui ont été recueillis dans cette maison, mais au contraire,
absolument,
comme des enfants qui ont su s'épanouir et après avoir une vie qui leur était propre et...
Absolument, absolument. Il y a quelque chose, une phrase clé à un moment donné qui est dite par Claude, le mari de Léa. Léa qui était donc une copine de ma mère et dont les parents sont morts à Auschwitz. Il a dit, quand il a rencontré Léa quand elle avait 18 ans, il n'a pas rencontré une victime de la guerre. Parce que toute l'éducation qu'elles ont reçue à Sèvres les faisait devenir... bien d'autres choses que des victimes. C'est-à-dire, voilà, tous ces enfants, on les intéressait à des tas de choses, on essayait de voir pour chacun d'entre eux ce qui lui convenait le mieux, vers quel art, par exemple, parce qu'en fait, on y pratiquait tous les arts, on y pratiquait la musique, on y pratiquait la sculpture, on y pratiquait la peinture, ils rédigeaient un journal, ils avaient une imprimerie, et puis il y avait tout un tas de règles de la démocratie, c'est-à-dire qu'on y a appliqué les règles démocratiques, les enfants prenant eux-mêmes en charge l'organisation de tout un tas de choses, que ce soit du repas ou de tout un tas de choses d'organisation de la maison. Et en fait, ces enfants étaient tirés vers le haut, vers la curiosité. On les faisait rêver aussi en leur disant, si vous apprenez bien à jouer du pipeau, dans un an, on va faire un concert à la salle Pleyel. Toutes ces choses qu'ils ont reçues dans l'éducation les a permis, pour un temps en tout cas, de leur faire oublier les raisons qui les avaient amenés là. Et évidemment, donc, c'est cette pédagogie et c'est ce souci des enfants qu'avaient Yvonne et Roger et toute l'équipe pédagogique qui travaillait à la maison de Sèvres qui a permis ça, qui a rendu ça possible, quoi. Et ça a assez bien marché, je dois dire, puisque la plupart de ces enfants, par exemple, beaucoup ont fait beaucoup d'études, ce qui est le cas de ma mère, et pour la plupart d'entre elles ont eu une vie d'adulte assez construite et assez équilibrée. Je dis bien pour la plupart, car il y a aussi des exceptions. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu le pour moi l'objet, c'est que là aussi, Claude, à un moment donné, dit, en arrivant, il faut bien s'imaginer que les enfants, en arrivant à Sèvres, se vivaient eux-mêmes comme des sous-merdes, quoi, sans être vulgaire, et que c'est un endroit où on a permis de leur redonner de l'estime d'eux-mêmes.
pour donner un peu une idée de l'environnement dans lequel ces enfants ont pu s'épanouir au sein de la maison de Sèvres, je vous propose d'écouter un extrait de Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. On revient juste après.
L'idée maîtresse de la pédagogie d'Yvonne est de déterminer un centre d'intérêt, comme par exemple le travail ou le logement, que les enfants étudient toute l'année à travers les différents ateliers qu'ils ont à leur disposition et dans toutes les classes, du CP à la 3e, et décliné dans toutes les matières, des maths à la céramique, de l'histoire à la danse, etc.
Goéland, elle trouvait, et elle avait raison, qu'il ne fallait pas uniquement être intellectuel. Elle détestait les purs intellectuels. Elle disait qu'il fallait être manuel en même temps. Donc pour moi, ce n'est pas une réussite, mais enfin...
Un extrait donc de Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, où justement qui parlait d'éducation nouvelle. Et justement, l'éducation nouvelle, c'était une méthode qui annonçait d'une certaine manière, comme vous le disiez juste avant qu'on passe l'extrait, les écoles Montessori. Mais c'est des écoles qui aujourd'hui sont payantes, alors qu'à l'époque de la Maison de Sèvres, les enfants étaient accueillis sans condition d'argent, surtout pas vu l'époque à laquelle
non seulement
ils étaient accueillis.
Pas payant, mais c'était des enfants qui étaient souvent dans des situations familiales catastrophiques. Donc effectivement, moi c'est un des trucs que je dis par rapport à l'époque actuelle, c'est qu'il y a une espèce quand même d'inversion des choses qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans mon milieu, je ne peux pas parler de ces écoles-là, celles qui existent encore, sont plutôt réservées aux catégories supérieures.
Oui, justement, vous aviez déjà un petit peu titillé les écoles payantes, les écoles privées dans la lutte des classes, justement. Donc, quel est votre regard de ces... Il y a un gros décalage quand même par rapport aux années de Pingouin et Goéland, finalement.
Ben c'est sûr. Alors, moi, je veux dire quelque chose d'important quand même, c'est que je pense que l'école publique, entre l'époque des années 50, celle dont on parle, et aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, l'école publique aujourd'hui, bon, évidemment, elle est mixte. Évidemment, il y a, par exemple, à Sèvres, il y avait cette ouverture au monde. Par exemple, c'était une des premières écoles qui a pratiqué le jumelage avec des écoles de l'autre bout du monde. Enfin, aujourd'hui, quand même, l'école publique, mes enfants, évidemment, ils sont... fait quand même beaucoup de choses et je veux surtout pas dresser un tableau trop noir de l'école aujourd'hui, mais parce qu'il faut bien imaginer que l'école publique des années 50, par contre, c'était la discipline, c'était on est tous en blouse, c'était tout ça quoi. Donc quand même, on a quand même progressé, même après, évidemment après 68 notamment.
Évidemment. Donc, voilà. Et justement, allez-y, pardon, je vous ai coupé.
Non, mais c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes à l'école, mais là. On change un peu de sujet, j'en ai longuement parlé dans la lutte des classes, qui est le fait que de plus en plus, l'école est de moins en moins mixte. Il y a les écoles de banlieue, les écoles pour les catégories défavorisées et les écoles pour les catégories favorisées. On sait bien, il y a toutes ces stratégies d'évitement, de contournement. Et moi, ça, évidemment, je trouve que c'est très grave parce que l'école doit être un lieu de rencontre entre les différentes classes sociales, entre les différentes communautés, s'il y a communauté, entre les différentes cultures. C'est très important pour moi que les enfants puissent se rencontrer, de différents milieux puissent se rencontrer, car sinon, ce n'est pas les adultes qui le feront, quoi. Et donc, ça, je trouve que c'est un mouvement qui est très mortifère pour la société.
Vous avez beaucoup parlé de la gauche donc dans votre filmographie, de ses déboires dans les années 2000, dans Le Nom des gens, jusqu'aux contradictions des gens de gauche dans La lutte des classes. L'histoire de Pingouin et Goéland et de la Maison de Sèvres, c'est aussi une histoire de la gauche ?
Ah ben ça, évidemment, puisque eux étaient très marqués à gauche, mais c'était des iconoclastes de gauche, c'est-à-dire qu'ils n'appartenaient c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qu'on appelait à l'époque la troisième gauche, c'est-à-dire que c'était ni les communistes, ni la SFIO de Léon Blum, c'était la
l'ancien
troisième
parti
gauche.
Socialiste.
Ni le Parti Socialiste. Et donc, ils ont toujours été un peu des francs-tireurs toute leur vie. Ça aussi, c'est pour moi important, c'est-à-dire, je les appelle vraiment, ce qui les caractérise le mieux, c'est que c'était des iconoclastes. Mais évidemment, c'était des gens de gauche en ce sens qu'ils avaient le souci du bien commun, tout simplement, le souci de l'autre. le souci de l'égalité et le souci de ne pas juger les gens en fonction de leur origine sociale et de leur origine tout court. Évidemment, c'était d'abord et avant tout des humanistes.
Eux ont été jugés, en revanche, puisque déjà avant même la Seconde Guerre mondiale, Roger Hagnauer, Pingouin, avait déjà été exclu du Parti communiste français, à l'heure où le parti sombrait, oui, dans ses tendances staliniennes. Et oui, ils ont été aussi, leur image a été galvaudée par le même PC, notamment dans l'après-guerre, puisqu'ils ont été notamment traités de collabos à travers des prises de parole, oui, ou des tribunes dans l'Humanité. Est-ce que justement, oui, votre film, c'est un moyen de venger Pingouin et Goéland de ces attaques? Est-ce que c'est un moyen de leur rendre justice?
Alors, leur rendre justice, certainement. Venger, c'est peut-être un mot un peu trop fort, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ce que je voulais, c'est surtout faire ressortir la grande cohérence de leur parcours. Parce qu'évidemment, quand on voit les choses d'un peu loin, on se dit que leur parcours a été complexe, parce que il faut dire que la Maison de Sèvres a été ouverte en 1941 sous le haut patronage du régime de Vichy. Donc évidemment, vu de loin, ça peut paraître compromettant. Mais c'est vraiment être malhonnête que de leur reprocher ça. Parce que justement, c'est une couverture qui a été idéale pour eux, pour justement sauver beaucoup d'enfants et d'adultes.
Au nez et à la barbe du régime.
Mais cette malhonnêteté intellectuelle contre eux, elle s'est effectivement manifestée juste après la guerre, où les communistes staliniens, qui étaient vraiment leurs ennemis, parce qu'à l'époque, entre eux étaient trotskistes, et entre les trotskistes et les staliniens, c'était une haine assez viscérale, ont profité de cette idée pour les attaquer et obtenir d'ailleurs leur limogeage du syndicat national des instituteurs à la libération, et il leur a fallu des années pour être réhabilités dans le syndicat qu'ils avaient d'ailleurs participé à fonder. Donc tout ça effectivement a été, je pense, très difficile pour eux, mais il faut aussi dire que dès la libération, ils ont eu beaucoup de soutien. C'est-à-dire, au-delà du Parti communiste, ils ont eu des soutiens, notamment des pédagogues, et évidemment des gens dont ils avaient sauvé la vie. Alors, les enfants, ils ne pouvaient pas les soutenir parce qu'ils étaient encore des enfants, comme ma mère. Mais en tout cas, les adultes qui ont vu avec quel courage et quel risque ils ont pris pendant toute la guerre, les ont ardemment défendus, et ce qui les a permis de sortir la tête de l'eau. Mais effectivement, ils ont vécu ce moment, je pense, comme une blessure très profonde.
Comme une blessure forte, effectivement.
Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi leur histoire jusque-là n'était pas si connue du grand public, parce qu'elle n'avait pas été racontée dans toutes ses dimensions. Et donc, rien que pour ça, je suis hyper content de ça, parce que je me dis que même dans 20 ans, même dans 30 ans, quiconque s'intéressera à Pingouin et Goéland et à Yvonne et Roger Hagnauer tombera sur le film un jour ou l'autre.
La suite de l'interview avec Michel Leclerc, c'est juste après la chronique de Jules et André.
C'est nous, Jules et André.
Et oui,
c'est à vous.
Parce que ma chère Agathe, pour le prix d'une chronique, tu en as donc deux.
Pour le prix d'une découverte, tu en as deux, vous en avez deux.
Et pour le prix d'un jeune homme blanc cis en totale insécurité avec des chutes intempestives de cheveux, vous en avez deux.
Pour ce premier numéro, on vous parle de rap anglais ou de comment leurs cousins débiles américains ont étalé le cheese sur une population écrasée par la pluie, la brique et l'incertitude géopolitique.
Et on va parler de qui donc, mon bon Jules?
André, double portion de tatouages faciaux et de cuisine de mauvaise qualité avec la présentation de deux labels qui ont fait les belles heures du hip-hop anglais, loin des schlasses cachées dans les poches et des feats avec Aya Nakamura.
Quand tu m'as proposé de parler de rap anglais, un nom a brûlé mes lèvres instant, iFocus. Le label qui m'a initié au UK hip-hop, pourtant assez loin des productions grime ou drill qui pullulent chez les roast beef. Un accent à couper au couteau, mais des prods old school qui te font suer sur un flow millimétré, c'est ça pour moi le bon son brut des British.
Et moi, pendant que André écoutait son...
I
Oui, Jules, du coup, tu nous parlais.
Nous n'avons pas de son qui passe en ce moment, nous sommes en pré-écoute. Non, nous avons un son qui passe.
Et donc, je disais que pendant qu'André écoutait son boom-bap technique, pardon, tout droit irradié du Sunlight de Californie, moi, je découvrais le label sombre qui pue la bière chaude et les cités résidentielles Bla Records. Nous venons d'écouter... qu'est-ce que nous venons d'écouter, André ?
On vient d'écouter Nicole du groupe Cult of...
un rassemblement des Avengers du label Bla Records. Avec Bla, j'ai trouvé tout ce qui m'avait fait frissonner à l'écoute de la vingtaine des noms que publiait chez iFocus, le label concurrent, du hip-hop brut, parfois sombre et sale, parfois poétique et soyeux, en tout cas de véritables amoureux et amoureuses de prod léchés et un flow ciselé par l'accent cockney.
Et là où Bla Records n'a récupéré que les larmes du peuple de la reine millénaire pour lâcher des dizaines de disques depuis le début des années 2000, iFocus a su transformer l'essai planté 30 ans plus tôt par les West américains.
On vient d'écouter Ocean Wisdom avec Tom et Jerry, un petit extrait de 30 secondes et son flow hallucinant à en faire pâlir un certain Eminem, Slim Shady, c'est ça ?
Connaisseur.
Qui a fait les belles heures du label, on parle de Ocean Wisdom bien sûr, pas Eminem, avant de partir fonder le sien en 2018.
Nous avons donc le portrait de deux maisons, sœurs ennemies au croisement du surf doré et du spleen expérimental. iFocus, on peut le dire, s'impose tout de même. On peut compter plus de fans sur les réseaux sociaux, millennials, et des feats avec des grands noms de la scène rap actuelle anglaise comme Dizzy Rectal ou Stormzy.
Bla, lui, reste plutôt dans son coin, en multipliant les sorties de différents artistes du label, créant des couples rappeurs-producteurs comme des mini-cabinets de recherche. Une sauce maison concoctée depuis presque 10 ans par son créateur, Lee Scott.
Mais qui ne se ressemble pas s'assemble et se ressemble un peu quand même, et les deux labels anglais ne sont pas si éloignés, André.
Quand iFocus se lance dans l'expérimentation d'une instrumentale Brit Rock avec Onoe Kaponoe et son Funky Butterfly,
prenez des notes.
Je vous conseille vraiment de l'écouter, Bla vient frotter le bout du nez des Américains avec une collaboration Micavelli Playboy McCarthy, dont Camille se rappelle encore avec émotion dans son couplet sur le morceau Earthquake de Tyler and the Creator.
Les deux labels sont donc amenés à porter sur leurs épaules conjointes la partie immergée de l'iceberg du rap anglais, loin des sourcils taillés et des coups de feu dans les rues sombres.
Une petite réponse à cette épreuve de taille, on va s'écouter Mustache Bulletproof par Strange You and Lee Scott. Bulletproof Mustache.
Bulletproof mustache. Ayo, 12 little simians jumping upon the bed. One fell the fuck off, landed the bumped his head. His mother called the doctor, and this is what he said. Smoke dust to the ambulance, runs a red. Pandora, opening up the damn box. Dash a whale in the ocean like John Hancock. Damn, when he's finished grabbing his balls, he sat with a half a gram of some British amateur porn. He should really stand up, be a man and spark a nation. But his dick was titanium alloy with armor plating. Say he remained in the seat, calm and patient, trying to think about sandwiches, rats, Sarah Palin. On the street, rocking the dark halo, pay attention. He's skillfully dodging a Sharknado. They say it's quite pathetic for causing mega harm, but his brain is cybernetic like Schwarzenegger's arm. Skill of the man with golden meatballs will pop the eyes out of your skull like Total Recall. The grand sapient taste in the can, flavoring iller than Jean-Claude Van punching a damn alien. No.
You tried shooting at the bulletproof mustache, the bullet ricocheted and it crossed back, so fuck that. In the club, rest of my three Uzis, chopping the chick up in the bar with three boobies. In the stage, to rock a mean crowd, with a task to make Burt Reynolds seem proud.
He plans to invade the cesspool planet in 9-3, with London to find me. Long tall, Sally Yarn practicing Tai Chi. calm like a Hindu cow. Look what you've got yourselves into now. I train for hours in the rain, in picturesque mountainous terrain. 60 reps in a set, smoking cigarettes in a vest, with a boulder on me pigeon chest. Left the whole city in a mess, to save a single damsel in distress. Neck and whiskey on me, build depressed. Angry at God, but I'm still the best man for the job. Fuck a president's blessing, I win quiet wars with deafening weapons. You'll die before the lion roars. Fuck the credits, I don't like awards. I save us all while you shine your swords. Teabag the mothership with fireballs, then hit the ground like a crash landing. I'm the last man standing like Van Damme dancing. Raise the weapon, teach the alien race a lesson. Jesse Ventura, Tash, circa 87. Swinging a bat like Freddie Flintoff. Brain dead, lawn mowing limbs off. Malnourished Rambo, karate chopping a mango. Into equal portions to feed the orphans. You want your planet saving, just ask. A man with a bulletproof mustache. You want your planet saving, just ask. A bulletproof mustache. Bulletproof mustache. Bulletproof mustache.
C'était donc Bulletproof Moustache de Strange You featuring Lee Scott sur Radio Campus Paris. C'était dans la chronique de Julie André, on les en remercie. Il est 20h43.
Feu d'artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture.
Feu d'artifice continue sur Radio Campus Paris, toujours avec Michel Leclerc qui nous parle de son dernier film, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, actuellement en salle. On revient donc sur les enfants de la maison de Sèvres dont traite le film. Donc Michel Leclerc, ces enfants, vous les avez rencontrés adultes, vous les avez côtoyés une partie de votre vie et vous nous montrez donc aujourd'hui une partie de leur histoire. À quel point...
Mais je les ai même rencontrés enfants, hein, c'est-à-dire que je les connais depuis que je suis né.
Oui.
La plupart, oui.
On voyait les réunions justement avec votre mère et ses amis. Par exemple, on peut penser à Léa, une enfant de la maison de Sèvres dans les années 40 et qui est omniprésente dans le documentaire. C'est... Oui. Est-ce que c'était une des personnes qui vous a motivé à faire ce film?
Ben, c'est-à-dire que, comme je vous dis, Léa, c'est vraiment un personnage que je connais depuis que je suis né. C'était une amie très proche de ma mère et qui a une sacrée grande gueule, qui a une sacrée personnalité, qui a toujours eu cette personnalité et qui a toujours rayonné dans la maison de Sèvres. C'est-à-dire que même quand elle était môme, donc je vous disais par exemple, il y a eu un film qui a été fait en 46-47 et évidemment, ils ont choisi Léa pour faire le personnage principal du film, vous voyez. Donc, elle a toujours eu un énorme charisme. Et évidemment, pour moi, c'était important de pouvoir la filmer, d'autant plus qu'elle, comme on le voit dans le film, très tôt, elle m'a dit qu'il fallait que je le fasse, ce film-là. Donc, elle m'a mis elle-même la pression pour que je le fasse, pas particulièrement pour que je la filme, mais pour que je fasse le film sur Pingouin et Goéland. Donc, évidemment, Léa, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Qui malheureusement n'a pas vu le film parce qu'elle est décédée juste à la fin du montage du film.
Elle a pu en voir une vingtaine de minutes, si je me souviens bien.
Ouais. Ouais, voilà, ce qui est évidemment assez triste, mais en même temps, bon, je suis en tout cas content d'avoir pu la filmer avant, et je pense qu'elle serait très contente du film.
Oui, son bonheur aussi, c'est de savoir que ce film existe.
C'est ça. Et le film aborde donc la question de l'identité, des racines, notamment à travers une très jolie métaphore illustrée par Sébastien Lodenbach, j'espère que je le prononce bien, que nous laisserons les auditeurs apprécier en allant voir le film au cinéma. Est-ce que ce n'est pas le sujet principal du film Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, cette question de l'identité et des racines?
Oui, je pense en tout cas, je savais en commençant le documentaire que je voulais parler de ce sujet et je voulais finir le film sur ce sujet, parce que j'avais vraiment envie que ça puisse avoir des échos avec notre époque. Parce que voilà, tous ces enfants qui donc arrivent à la maison de Sèvres totalement traumatisés, parce que la plupart ont perdu leurs parents dans des circonstances vraiment dramatiques, comme on l'a raconté précédemment, ben, progressivement, au fil des années, se sont construits une nouvelle identité. Ils n'ont pas parlé. Ils ne parlaient pas de leurs parents et des raisons pour lesquelles ils étaient arrivés à la maison de Sèvres. Pourquoi ? D'abord parce que c'était l'époque. Donc, en général, On ne demandait pas aux enfants de parler d'eux-mêmes et de leurs souffrances. Ça, c'était
bien sûr,
vrai.
Malheureusement.
Mais il y avait aussi le fait qu'à la maison de Sèvres, ils étaient tellement occupés, leur esprit était tellement occupé et tendu vers l'avenir que progressivement, ces enfants ont fini par oublier même leurs origines et d'où ils venaient et se sont construits une nouvelle identité. Et ça, moi, je suis vraiment le témoin de ça, que pour ma mère, d'abord et avant tout, elle avait été une enfant de Sèvres. Elle avait cette identité sèvrienne très, très forte. Et voilà, et toutes ses copines, comme je le dis dans le film, moi, je ne savais pas, par exemple, qui était juive ou qui n'était pas juive. Enfin, elles avaient des histoires très, 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 très différentes. Une des meilleures amies de ma mère est d'origine italienne et son père était un antifasciste italien. Enfin, vous voyez, c'était vraiment très différent. Et elles se sont construites une nouvelle identité sur le silence. Et d'une certaine manière, elles s'en sont sorties sur le silence. Et évidemment, c'est assez contradictoire avec l'idée très forte aujourd'hui, qui est qu'en général, quand on a été victime de quelque chose, quel que soit ce dont on a été victime, et elles, Dieu sait qu'elles ont été victimes, il faut parler. Il faut parler, et que c'est par la parole, par la libération de la parole, qu'on peut surmonter ses traumatismes. Et elles sont un peu l'exemple inverse. Donc voilà, je ne veux pas en déduire trop. Je ne suis pas psy, je ne suis pas donneur de leçons, mais je veux juste raconter ça en disant, ben, finalement, l'histoire de la maison de Sèvres est assez contradictoire avec la doxa de notre époque.
Oui, ce qui vous intéresse, c'est de montrer qu'il y a qu'effectivement vous dites que c'est l'exemple inverse de libérer la parole, mais j'imagine que votre ressenti, c'est de dire que libérer la parole, c'est bien pour certaines personnes et heureusement que ça existe, mais le silence peut être aussi
salvateur parfois
aussi salvateur.
Voilà, exactement, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je le redis, hein, je ne veux pas donner de leçon. Bien entendu que pour beaucoup de gens, le besoin de parler, par exemple le besoin de suivre une analyse ou une psychothérapie est très importante, et loin de moi de nier ce que ça peut apporter. Et moi, c'est plus au niveau sociétal, par contre. C'est-à-dire que je pense que c'est une idée qui est quasiment généralisée, et si quelqu'un ne veut pas parler de ce qu'il a vécu, on lui fait presque sentir qu'il a tort. Et ça, je peux donner des exemples de ça, mais ça, c'est quelque chose, moi, ma mère n'a jamais voulu parler de ses parents de toute sa vie. Et voilà, et finalement, c'est son droit. C'était son droit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me sens, évidemment, souvent, la génération d'après a envie, a une envie irrésistible d'aller voir ce qui n'a pas été raconté, de revenir vers les racines, de revenir vers l'origine. Mais au fond, par exemple, le désir de ma mère, c'était de taire cette origine et d'essayer de construire quelque chose sur ce qu'elle a vécu après la mort de ses parents. Ben, pourquoi forcément il faudrait aller dans le sens contraire? Et moi, c'est pour ça que je finis le film en disant, ben moi, j'ai envie de me dire plus tellement juif, par exemple, puisque c'est au fond, c'était le désir de ma mère.
Et donc, que c'est.
Je trouve ça intéressant.
Et que c'est le cheminement aussi de l'identité de votre mère qui a découlé sur votre identité à vous. En tout cas, c'est ce qu'on en a compris. C'est ce que vous nous avez dit aussi un peu tout au long de cet entretien. Ces questions de l'identité, elles étaient sous-jacentes et c'était passionnant. Pingouin et Goéland et leurs 500 petits est en salle depuis mercredi. Et vous allez continuer une tournée de projection jusqu'au 29 novembre. Quels sont vos projets après ça? Est-ce que vous allez retourner à la fiction?
Alors, c'est déjà fait, figurez-vous, parce que ce documentaire, il est fini depuis plus d'un an, puisqu'il devait sortir, comme beaucoup de films, avant le Covid, juste avant. Donc, du coup, entre-temps, j'ai eu la possibilité de tourner un nouveau film, que j'ai tourné là au mois de juin, qui est une fiction, alors qui n'a rien à voir avec, et j'en suis très content, avec cette histoire-là, qui ne parle pas d'identité et qui parle beaucoup de chansons.
D'accord.
Voilà.
Quelque chose tout à fait nouveau alors.
C'est tout à fait différent. Oui. On a beaucoup de plaisir à aller le voir.
Merci Michel okay. Leclerc d'avoir été au Merci micro beaucoup. De Feu d'Artifice. On rappelle que Pingouin et Goéland et leurs 500 petits est en salle actuellement, notamment à travers des projections en votre présence. Des projections dont on peut trouver la date et le lieu sur dulacdistribution.com.
Voilà.
Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, une très belle leçon d'humanité.
Merci encore à Michel Leclerc d'avoir été avec nous. Il est 20h51, Feu d'Artifice est bientôt terminé. Mais tout de suite, on retrouve la rubrique musicale présentée par Dominique Dardar.
Mama mia, here they go again. Abba fait son grand comeback. Le groupe mythique suédois composé des chanteuses Annifrid Lyngstad, dite Frida, et Agneta Falstock et des auteurs-compositeurs Benny Andersson et Björn Ulvaeus est de retour 39 ans après son dernier album. Phénomène pop sans précédent dans les années 70, le quatuor disco pailleté et tourbillonnant détient un record puisqu'il fait partie des groupes ayant vendu le plus de disques, ses ventes étant estimées à 380 millions, le propulsant ainsi au top du panthéon des icônes bankable de la musique populaire, avec les flamboyants Queen, les chevelus Beatles, et étonnamment loin devant l'inénarrable Michel Sardou. Pendant plusieurs années, le groupe surmonte toutes les épreuves que la main du destin jette sur son chemin et survit, entre autres, à l'agoraphobie et la peur de l'avion d'Agneta, à deux divorces au sein du groupe, n'ayant pas cru bon de suivre le pourtant très sage adage populaire « no job in a job », aux erreurs de grammaire anglaise dans leurs chansons, au brushing trop ou pas assez volumineux and so on. La bande de joyeux drilles finit par se traîner tant bien que mal, tel Renault devant une caméra pour un énième clip que personne ne lui avait demandé, jusqu'en 1982, Anus Horribilis, où fatigué et ayant perdu le plaisir de se produire ensemble et de s'habiller en boule à facettes, ils se jurent, une fois séparés, de ne jamais reformer de groupe. Après de molles tentatives de carrière solo dignes de Larusso se produisant dans un kibboutz, ils finissent par disparaître dans les oubliettes du temps. Un revival les sort de leur malle poussiéreuse en 2008 avec la sortie de la comédie musicale Mamma Mia, mais ce n'est pas suffisant et le soufflet retombe déjà à l'image de la morning glory triste d'un octogénaire en panne de pilule bleue. Puis, par un matin de septembre, la rumeur, espérée par les uns, redoutée par les autres, et qui se répandait depuis 2018 comme des miettes de Chris Prolsch sur la toile cirée de grand-mère Inga, se confirme enfin, Abba is back. En plus d'un album sobrement intitulé Voyage, sorti le 5 novembre, ils annoncent une série de concerts. Problème, avec une moyenne d'âge de 72,4 ans, les pop stars se situent aujourd'hui davantage du côté arthrite et polydent que chorégraphie endiablée et cocaïne. Mais c'était sans compter sur leur ingéniosité. Ils ont décidé de se produire sur scène sous forme d'avatar hologrammique appelé, tenez-vous bien, Avatar, emboîtant ainsi le pas de plusieurs bêtes de scène célèbres qui ont utilisé des hologrammes, Gorillaz, Michael Jackson, Tupac ou encore Jean-Luc Mélenchon. Espérons pour eux que cette fantaisie déshumanisée réussisse à attirer les foules, car s'ils veulent se reconvertir, une porte leur est déjà définitivement fermée. En effet, à l'époque où ils avaient choisi leur nom, Abba donc, celui-ci était déjà utilisé par une conserverie de poissons. Après un coup de fil au directeur de l'entreprise, Agneta obtient l'autorisation d'utiliser le nom en échange d'une promesse, ne jamais se lancer dans la poissonnerie. En misant sur un retour audacieux mais risqué, sur le devant de la scène à l'âge où d'autres aspirent à tricoter devant la cheminée, on leur souhaite que ça morde à l'hameçon.
Merci beaucoup Dominique Dardar, qu'on peut applaudir effectivement sur Feu d'Artifice.
Merci beaucoup.
Bonsoir. Oui. Elle vient de partir, c'est ça? Ah bah elle vient. Te revoilà. Mais comme c'est merveilleux, merci beaucoup Dominique Dardard.
Mon cher Simon,
fait cette chronique. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Est-ce qu'on a le temps pour le quiz?
On a le temps pour quelques questions de quiz.
Oui. Peut-être une ou deux questions de quiz.
On a le temps pour quelques questions de quiz, 2 minutes, et puis après on va.
Ce soir, j'avais envie de vous proposer un quiz sur le thème des anniversaires de la pop culture. Oh. Ça peut être.
Oh, miam!
On se demande pour qui c'est.
Ça peut être la date de sortie d'un film, du premier épisode d'une série, de la date d'anniversaire d'une personnalité du monde de la culture. Bref, vous avez compris, vous allez comprendre avec les questions. Chers auditeurs, n'hésitez pas à jouer avec nous. Première question.
Qui est?
Quelle est la date de sortie du tout premier épisode de Doctor Who?
Je sais.
Oh, oh là là.
Balancez, balancez.
C'est balancez. Trop facile.
Non, oui, oui.
Bah, je l'ai.
T'as pas le droit de répondre.
C'est trop facile.
Faut l'année.
Est-ce que c'est dans les années 60?
Celui qui sera le plus proche de la bonne réponse.
67.
Ah, moi j'aurais dit début 70, 71, allez.
Simon?
23 novembre 63.
Bien joué, bravo, bravo.
Oh, 63.
Bah oui, le lendemain de l'assassinat de Kennedy. Et moi, je suis une personne qui adore Doctor Who, ce qui fait que les gens normaux se disent ah là là, Kennedy est mort.
Mais c'est un peu
précis.
Les gens se souviennent de la date de sortie de Doctor Who parce que ils savent que Kennedy est mort un 22 novembre. Moi, c'est l'inverse. Je sais que Kennedy est mort un 22 novembre parce que Doctor Who a été diffusé un 23 novembre.
Calmez-vous quand même, mais ça va.
Question suivante. Quel célèbre album de musique électronique fête ses 20 ans en 2021?
Ah, ça, je ne
les Daft
Punk.
Oui,
les Daft Punk.
C'est
moi.
Merci Camille à la réalisation pour cette réponse. Bonne réponse. L'album Discovery des Daft Punk, leur deuxième album qui contient les titres One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, pour ne citer que. Question suivante. Deux dernières. Quelle station de radio fête ses 20 ans en 2018?
Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris, la radio que vous écoutez actuellement.
On a fait une tournée de 20 dates.
Mon ultime question pour vous, quel animateur radio de talent fête son anniversaire aujourd'hui?
Radio Campus Paris.
Non, Simon Marie.
Simon Marie, c'est la bonne réponse. Bon anniversaire, Simon. C'est ton anniversaire ce soir. Et je crois.
Cet anniversaire. Joyeux anniversaire.
Ça n'a absolument aucun
sens. Joyeux anniversaire.
Simon Marie, honteux avec ton émission, même si tu restes dans cette émission.
Et c'est des
joyeux anniversaire.
On va prendre l'antenne, on va même pas dire merci.
Merci.
C'est déjà la fin de ce deuxième numéro de Feu d'Artifice.
Et oui, l'heure pour nous de remercier. Bah déjà, merci à tous pour ce petit cadeau en direct. Remercier chaleureusement et par ordre complètement aléatoire. D'abord, Michel Leclerc qui a répondu à nos questions à propos de Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Merci à nos chroniqueurs du soir, André et Jules, pour leur chronique musicale.
Merci à toi, Simon.
Et merci à Lalia pour sa psychanalyse qu'elle nous impose. Bien sûr,
merci
à Camille
merci
à la réalisation
merci
de cette
Camille.
Émission. Et surtout, merci à toi, Agathe.
Et merci, public.
Et merci au public qui nous a écoutés. Merci, Simon. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radiocampusparis.org à la page de l'émission. Feu d'artifice est terminé, on revient le 4 décembre. Tout de suite, c'est l'heure de Gestalt, l'émission où se côtoie le monde de la culture et celui de la santé. On rend l'antenne.
Bonne soirée.